Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
Soyez les bienvenus dans le Business Club de France, émission spéciale aujourd'hui consacrée, on va le dire comme ça, au prix des délais de paiement, une manière de mettre en lumière ces entreprises, mais aussi ces collectivités locales, voire des ministères à l'honneur, parce qu'ils ont réellement et concrètement pris à bras le corps ce problème dans leur organisation et ont cessé, involontairement, vous me direz souvent, de faire souffrir leurs fournisseurs en les payant très tardivement. Un coup de chapeau que nous voulions saluer, car cette émission est aussi l'occasion d'échanger de bonnes pratiques dans ce domaine, car on a encore des progrès à faire en France. Bienvenue dans le Business Club de France, numéro 479. Et pour animer cette émission avec moi et commenter ces bonnes pratiques que nous allons découvrir, Pierre Pelouzet est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Michel Picot.
Vous êtes le médiateur national des entreprises. Pour que nos auditeurs comprennent bien, il ne s'agit pas ici de prix pour récompenser des entreprises qui respectent la loi, parce qu'en la matière, elle est très claire, cette loi. Et c'est quoi? C'est ce que je disais dans l'instant, récompenser des entreprises qui ont réellement mis en place, on va le voir, des process efficaces pour payer dans les délais de manière continue.
Alors effectivement, Michel, le but est de mettre en avant alors des entreprises et des acteurs publics qui, les uns comme les autres, ont pris le problème à bras-le-corps, comme vous l'avez dit, ont essayé de mettre en forme et en action des processus intéressants, des processus qu'on veut mettre en avant pour non seulement payer en temps et en heure, mais s'assurer de le faire de manière régulière, constante, et de prendre en compte tout ce qui peut bloquer ces paiements et retarder ces paiements pour éradiquer ces problèmes et faire en sorte que le tissu d'entreprise, TPE-PME notamment, dont on sait la fragilité de trésorerie, puisse être payé en temps et en heure une fois qu'ils ont rendu un service ou fourni un bien.
Et vous allez le voir, je dis ça à nos auditeurs, l'engagement est fort pour la plupart des entreprises, ministères, collectivités, même une banque aujourd'hui aussi, vous allez le voir. On va commencer ce tour de table, un rapide tour de table, puis après on va détailler tout ce que vous avez pu faire. Avec vous, Nelly Plu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente et fondatrice du groupe Equity. C'est une PME conseil informatique, mais vous faites quoi plus précisément?
Alors, nous sommes une entreprise du service numérique qui régule et qui favorise la relation TPE-PME client grand compte. Mmh. Nous sommes un intermédiaire facilitateur qui a deux métiers. Le premier, c'est le portage commercial sécurisé d'un panel fournisseur. Et le second, le sourcing de talents.
Ce qui veut dire, on va parler des délais de paiement tout de suite, mais par rapport au volume d'affaires que vous faites, il y a un gap qui est assez, vous allez nous l'expliquer. Mais par exemple, délai de paiement, délai moyen, en 2017, 5,25 jours avant l'échéance contractuelle. Le volume, c'est quand même un volume de paiement 10 fois supérieur à votre chiffre d'affaires. Ça, on va le développer parce que ça m'intéresse
beaucoup.
Absolument. Mais d'abord, 5,25, quelle est votre recette? On va le détailler, mais juste pour nous donner un petit peu envie, parce que c'est quand même assez remarquable déjà.
Absolument. Ben, pour vous donner envie, c'est qu'on n'a pas fait ça tout seul.
Oui.
Et c'est sur la base de la confiance, du faire ensemble. Et c'est bien le concours de plusieurs investissements comme nos clients et les fournisseurs. C'est nos clients qui ont amorcé, et je dois vous avouer que c'est surtout les clients soit signataires ou labellisés de la charte relation fournisseur achat responsable et donc porteurs des bonnes pratiques qui ont amorcé un processus, et nous n'avons fait que, j'ai envie de vous dire, que de le continuer.
Ouais, mais enfin, il n'empêche, vous êtes une PME, on va le voir tout à l'heure, on va le détailler, c'est quand même assez osé, si j'ose dire, parce que c'est remarquable.
Merci.
Sacha Briand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le vice-président délégué aux finances de Toulouse Métropole. Toulouse Métropole, c'est la ville de Toulouse et 36 communes autour, hein, c'est ça?
37 communes autour, effectivement, 750 000 habitants. Non, vous l'avez dit, Toulouse plus 36.
Toulouse plus 36, donc ça fait 37 en tout. Voilà, bon, j'étais dans le juste alors. Le budget traité par Toulouse Métropole, il est de combien? Parce que vous avez plus de 10 000 fournisseurs tout de même.
On a plus de 10 000 fournisseurs et on a un budget total fonctionnement et investissement de près de 1,2 milliard d'euros par an.
Alors on va parler des outils que vous avez mis en place pour réduire ces délais de paiement. Je voudrais juste préciser que vous les avez réduits de moitié en 2 ans.
Oui, depuis 2015, de moitié. Ouais. Mais si on prend 2014, on était à 48 jours avec l'ordonnateur et on est aujourd'hui à 18 jours. Donc... C'est
quel parcours ?
Plus de 2/3 de baisse.
Et il y a un autre point qui m'intéresse beaucoup, c'est les 30% d'avance aux fournisseurs entreprises du BTP que vous leur accordez.
Effectivement, dès 2014, décembre 2014, on a voulu mettre en place un Small Business Act qui prévoyait un certain nombre d'actions, dont la réduction des délais de paiement, mais également une avance de trésorerie sur les marchés publics qui va jusqu'à 300 000 euros et qui permettait de faciliter la mise en œuvre et la candidature par les entreprises, parce que certaines n'ont pas toujours la trésorerie nécessaire pour pouvoir répondre. On a aussi simplifié les procédures de marché public, par exemple. Les entreprises n'ont pas besoin de signer électroniquement les offres avant d'être attributaires, ce qui réduit les coûts de candidature.
Pierre, un commentaire, on va continuer ce tour de table. Hein, mais là, déjà, cette initiative, c'est la première fois que je l'entends. Il doit y en avoir d'autres peut-être en France, mais qu'on n'a pas capté encore, du moins ici. Mais c'est quand même assez remarquable pour des petites boîtes du BTP.
Alors, effectivement, on sait que les avances, c'est un moyen, un bon moyen de permettre à des petites entreprises, notamment dans le BTP, d'accéder à la commande publique, parce que sinon, ils n'ont pas les fonds, ils n'ont pas la trésorerie pour démarrer les marchés. Donc, du coup, ils ne vont même pas concourir. Ouais. La loi, effectivement, aujourd'hui, autorise des avances de 5 à 30%. Toulouse s'est mis au maximum. Toulouse Métropole s'est mis au maximum de 30%, ce qui est formidable. Et effectivement, ça donne une bouffée d'oxygène à ces petites entreprises pour pouvoir accéder au marché, avoir la trésorerie et donc acheter les matériaux, commencer à payer les équipes dès le départ du chantier et non pas attendre les premiers paiements pour pouvoir se renflouer en trésorerie.
Ouais. Je voudrais saluer François-Xavier Tesson. Bonjour.
Bonjour.
Responsable comptabilité et fiscalité au Crédit Agricole Centre-Est. On va voir dans un instant vous aussi les actions, mais je m'arrête quelques secondes sur les délais de paiement. Délai moyen de paiement 2017, 26,9 jours. 93% des factures payées avant les 60 jours. J'ai presque envie de vous demander, pour une banque, pourquoi cet engagement ? Vous voulez aller plus loin, on va le voir, pour les objectifs 2018. Mais
oui, c'est pas terminé, mais c'est important pour nous parce que ça correspond complètement à nos valeurs et à notre ADN. Nous sommes une banque coopérative, mutualiste et régionale. Notre objectif, c'est de soutenir notre territoire, le développement économique de notre territoire. Alors, ça passe bien sûr par notre premier métier, qui est le métier de financeur. L'année dernière, on a injecté plus de 5 milliards d'euros dans l'économie locale. Ça passe aussi par des investissements dans le capital de certaines entreprises, investissements aussi dans des projets immobiliers importants. On a participé notamment à la rénovation du Grand Hôtel Dieu l'année dernière à Lyon. Ça passe aussi par beaucoup d'initiatives locales que nous portons avec nos sociétaires chaque jour.
C'est-à-dire que vous jouez votre rôle pleinement de banque, c'est-à-dire acteur de l'économie locale en y injectant, enfin en respectant déjà les délais de paiement par rapport à vos fournisseurs, donc c'est de l'argent qui circule, mais c'est aussi une manière de dire, on fait tourner un petit peu tout ça, quoi, finalement.
Tout à fait, exactement, ouais. Ça rentre, cet engagement en termes de délais de paiement qu'on prend vis-à-vis de nos fournisseurs, ça rentre complètement dans cette logique du soutien du territoire, et d'ailleurs, on a plus de la moitié de nos fournisseurs qui sont locaux.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on suit régulièrement.
Ouais. Alors vous allez nous détailler dans un sens, il y a toute une série de mesures, mais je voudrais qu'on fasse ce tour de table et qu'on poursuive avec notre dernier invité, Christophe Chauffour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sous-directeur des affaires financières au ministère de la Culture. Pardon pour le cliché, mais en préparant ce rendez-vous, je me suis dit, tiens, le ministère de la Culture est là. Quand on sait, mais vous n'y êtes pour rien. Vous avez des budgets ultra serrés, ultra tendus dans la culture, c'est le mal de ce pays. Je me dis, mais comment vous faites? Enfin, c'est formidable, hein, c'est juste tout à fait mérité, mais c'est quand même exceptionnel.
En fait, il y a eu une prise de conscience il y a quelques années, lorsque Bercy, notamment, a publié la liste des mauvais élèves en termes de ministère. Et effectivement, le ministère de la Culture s'est rendu compte qu'il était dans les derniers de la classe. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une volonté très forte, au niveau de l'encadrement du ministère, de se dire c'est un vrai sujet, un sujet d'exemplarité aussi. Le ministère de la Culture, évidemment, fait partie de l'État, et l'État doit être exemplaire sur ce sujet-là. D'autant que pour le ministère de la Culture, on a peut-être loin des clichés, mais une prise en compte des enjeux économiques aussi. La culture n'est pas un secteur marchand comme un autre, mais il y a des enjeux économiques derrière, il y a aussi des entreprises, il y a des industries culturelles derrière, et 80% de nos fournisseurs sont des PME. Et donc, il faut qu'on les soutienne aussi, sachant qu'on soutient les métiers d'art, on soutient aussi les graphistes, les designers, qui sont aussi des auto-entrepreneurs, qui ont parfois des petites entreprises, et on est là pour les soutenir. Donc, il y a une prise de conscience qui a fait que on s'est mis en capacité de respecter à la fois les délais que jusqu'à présent on ne respectait pas, et d'aller au-delà, puisque effectivement aujourd'hui on est à 20 jours.
Et vous étiez à 52 jours en 2014. Hein.
Exactement, on était vraiment pas bon.
Mais c'est pour voir le gap qui a été fait quand même, et le travail qui a été réalisé.
Donc voilà, il y a une révolution culturelle au sein du ministère de la culture pour inverser finalement la logique, être au service des fournisseurs et répondre à leurs attentes dans une idée vraiment d'exemplarité de l'État.
Vous nous direz dans un instant ce que vous avez mis en place aussi pour pouvoir atteindre cet objectif. Pierre, un commentaire, parce que là aussi
la révolution culturelle au ministère de la Culture, je ne peux qu'approuver, mais plus sérieusement, effectivement, il est important de mesurer. Ce que vient de dire monsieur est important. L'observatoire des délais de paiement dont on parle régulièrement aujourd'hui, effectivement, tous les ans, donne maintenant un panorama complet des délais de paiement et des retards de paiement, notamment un panorama ministère par ministère, ce qui a été l'occasion pour le ministère de la Culture à l'époque de se rendre compte qu'il y avait un gap et qu'il fallait réagir. Et moi, je dis bravo parce que la réaction était très, très rapide, très, très forte et très, très décisive, puisqu'on voit le progrès considérable entre là où on en était il y a 2-3 ans et là où on en est aujourd'hui. Donc, on est très heureux, on a été très heureux de remettre ce prix au ministère de la Culture pour cet effort considérable en un temps très court.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, on va entrer un peu plus dans le détail avec vous, Nelly Plus. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice du groupe Equity. Je rappelle ce chiffre parce qu'il me plaît beaucoup. 5,25 jours, c'est le délai moyen de paiement en 2017 chez vous. Et vous dites, pour un volume de paiement 10 fois supérieur au CA du groupe Equity. Le CA, c'est 400 000 euros, hein, je crois, chez vous.
Un petit peu plus.
Ouais. Ça veut dire que vous avez... 10 fois plus, c'est 4 millions.
Absolument.
J'y suis. C'est bien, ça va de mieux en mieux. Non, mais dites-moi, expliquez-moi, comment vous faites, vous, PME, 400 000 euros de chiffre d'affaires, un peu plus de 400 000, et 4 millions de factures à payer dans les délais? Moi, j'y vais. Voilà, j'ai un peu de mal.
Alors, déjà, il faut comprendre ce qu'on porte et notre modèle de fonctionnement. Déjà, Groupe Equity, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un intermédiaire entre les clients et les fournisseurs. Et nous réalisons sans escalade de sous-traitance. Et c'est ce qui est très, très important. C'est un des sujets qui m'a animé à créer le Groupe Equity. C'est-à-dire que le fournisseur qui se trouve en dernière position, en étant le maillon d'une chaîne de sous-traitance, est souvent celui qui porte l'innovation, porte les investissements et le dernier payé. Donc ça, c'est juste pas possible. Groupe Equity supprime tout lien de sous-traitance et donc gère par des mandats de facturation l'ensemble des facturations, est un interlocuteur unique. Alors ça simplifie la relation avec les clients et donc nous sommes identifiés, référencés côté client et nous gérons l'intégralité du business en apportant une visibilité à ces chefs d'entreprise tant sur leur business que sur leur règlement, ce qui change complètement la donne.
Mais ça veut dire quand même que vos clients vous règlent à vous.
Absolument.
Et ensuite, vous payez vos fournisseurs.
Tout à fait. Là-dessus.
Si eux sont en retard, comment vous faites, vous? Vous avez 10 fois plus que votre chiffre d'affaires à payer.
Absolument.
Comment on fait dans ce cas-là? Ça se bloque, non?
Eh bien, c'est là tout l'intérêt de reposer nos engagements sur la charte relation fournisseur-achat responsable et d'avoir dans notre panel des clients engagés, puisque nous avons établi toute une communication en amont pour justement réduire ces délais de paiement, sensibiliser, c'est bien le faire ensemble, faire confiance. Et puis pour les petits entrepreneurs les plus en danger ou fragiles, nous avons mis en place, nous avons débloqué tout ou partie du règlement en amont pour qu'ils ne soient pas pénalisés.
Ouais, parce que je vois, par exemple, vous prenez en compte les périodes estivales pour anticiper.
Il y a
des bonnes pratiques là que je trouve intéressantes. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup. On en a beaucoup parlé dans cette émission. C'est l'identification des interlocuteurs dédiés à chaque étape du processus, donc chez les clients et les fournisseurs. Cet interlocuteur dédié, c'est lui aussi qui, j'imagine, au-delà de la mission, va voir le suivi de la facture, va voir les délais.
Vous avez absolument raison. C'est une étape qui est capital au tout début de la relation, dès notre référencement, quand on découvre les processus et les engagements de nos clients. Nos équipes sont habilitées, formées à se rapprocher et à connaître tous leurs interlocuteurs, en faisant passer des organigrammes, en expliquant notre politique, et en se faisant connaître et surtout en demandant à connaître les interlocuteurs clés pour débloquer les situations, pour émettre les commandes beaucoup plus rapidement. L'intégralité du cycle de règlement est connue de nos équipes, et c'est ce qui crée la performance.
Ouais. Et la confiance, j'ai envie de dire. Je sais que Pierre est très sensible
mais
à ça.
Oui,
parce que
oui,
vous faites des rencontres systématiques avec vos clients, vos fournisseurs. La confiance s'instaure à partir de ce moment-là.
La confiance s'instaure et on voit que derrière un processus qui paraît très technique, et quand on le regarde un peu de loin, on envoie une facture, papier ou numérique, ça rentre dans un système informatique, c'est approuvé électroniquement et c'est payé. Si on ne met pas de l'humain, si on ne met pas du relationnel, si on ne met pas de la confiance, ça ne marche pas. J'allais dire à contrario, quand on met de l'humain, quand on met de la confiance, quand on connaît les gens, là, par miracle, ça marche. Donc, la première chose qu'on doit retenir, peut-être la plus importante dans tous ces processus, c'est ces dames et ces messieurs qui se sont engagés, ont mis de l'humain derrière des processus techniques, et du coup, ça marche beaucoup mieux. Ouais. On paye en temps et en heure, et nos fournisseurs sont contents parce qu'ils peuvent se développer, avoir de la trésorerie, fournir de l'innovation, créer, et c'est mieux pour tout le monde.
Mais on va voir aussi qu'il y a de la techno qui a permis d'améliorer les process de beaucoup d'entre vous, et ça c'est bien parce qu'il y a un côté humain, puis la techno est là à votre service pour le coup. Nelly, plus votre objectif est d'aller plus loin, on va en parler dans quelques minutes, mais d'abord, pourquoi justement vous voulez aller aussi loin? Qu'est-ce que cela vous rapporte au final?
Eh bien,
vous comme voulez rester dans les clous et puis voilà.
Absolument. Bon. Comme l'a très bien dit Pierre, le premier volet, c'est renforcer la confiance chez nos fournisseurs TPE-PME. C'est également apporter une visibilité à nos fournisseurs et les sécuriser dans leur business développement. Mm-hmm. C'est développer l'investissement et favoriser l'emploi sur le territoire. Et enfin, c'est réduire les coûts et la gestion des factures des paiements, avec derrière évidemment cette recherche de performance.
C'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous êtes chef d'entreprise avant tout. Et là, vous avez une liste, j'ai presque envie de dire, une mission sociale, sociétale, au-delà du business que
vous avez. On est très engagé au niveau social et sociétal chez Groupe Equity.
Mais derrière, il y a de l'économique.
Oui, bien sûr.
Si vous êtes une entreprise, une TPE-PME, que vous avez de la performance à donner, que vous avez de l'innovation à donner, et que vous avez 5 clients, 2 qui vous payent bien, 3 qui vous payent pas bien, à qui est-ce que vous allez donner la performance et l'innovation?
J'ai envie de vous dire que ceci, ça profite également et surtout aux clients, parce que derrière, ils ont des prestataires qui sont pas stressés, qui n'ont pas besoin de créer et d'innover dans les discours qu'ils vont raconter à leurs banquiers, parce que je peux vous dire que les nuits blanches, je connais, et que aujourd'hui, on se concentre plutôt sur les innovations de nos propres produits, de nos métiers, et ce sont les clients qui gagnent.
Vous avez un banquier à côté de vous, hein. Ça l'a fait sourire, hein, quand vous l'avez dit ça.
Je me suis pas mise à côté au hasard.
Alors, on va continuer dans la bonne humeur et parce qu'on apprend de bonnes nouvelles, ça fait du bien. Sacha Brillant, je rappelle que vous êtes vice-président délégué aux finances de Toulouse Métropole. Le budget que vous traitez, c'est 1,2 milliard, 10 000 fournisseurs, délai moyen en 2017 de 18,76 jours et 85% des factures payées à échéance. Qu'avez-vous mis en place pour atteindre cette performance-là pour le coup?
D'abord, une volonté.
Ouais.
La volonté, on en parle depuis tout à l'heure, de faire en sorte qu'une collectivité locale qui vide la fiscalité des habitants et puis des entreprises, elle soit aussi respectueuse de l'argent et de ses partenaires, et qu'on joue pleinement notre rôle, notre fondement, qui est de dynamiser le territoire et de réinjecter l'argent dans le territoire au titre de la solidarité, mais du développement économique aussi. Et je crois que c'est vraiment ça qui est marquant, parce que tout le reste en découle. Le Small Business Act, on en a parlé tout à l'heure, les 30% d'avance, c'est non seulement 30% systématique, mais c'est aussi sans garantie financière. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, c'est être à l'écoute de nos partenaires et des entreprises. C'est l'allotissement systématique des marchés. Mmh. Et pour améliorer l'un des points qui était dans le Small Business Act, c'est-à-dire les délais de paiement, ça a été un travail partenarial. Parce qu'à vrai dire, c'est Toulouse Métropole qui perçoit le prix. Et je salue Samuel Paquet et la direction de la comptabilité qui gère ce grand chantier. Mais il y a aussi le trésorier. Et c'est surtout au niveau des services de l'État, des services du comptable public, que des efforts ont été réalisés sur les délais qui étaient inacceptables et qui sont devenus aujourd'hui, grâce à un partenariat, la dématérialisation de la chaîne comptable, l'amélioration de nos procédures de contrôle ont permis de mettre en place une convention de partenariat allégé qui fait que aujourd'hui, le contrôle du comptable ne se fait plus que par échantillon et va se faire même a posteriori. C'est-à-dire que le comptable, il y a un principe de confiance qui s'établit avec la collectivité grâce aux efforts qu'on a pu faire en procédure interne.
Est-ce qu'aujourd'hui, parce que je vois par exemple, vous avez voulu sensibiliser vos principaux fournisseurs aux avantages du dépôt de factures sur Chorus Pro. On va expliquer, c'est une plateforme justement pour tous les fournisseurs qui répondent à un appel d'offres. Est-ce que cette technologie vous a permis à vous aussi d'avoir un meilleur traitement de la facture?
Ah bah bien sûr.
Process amélioré pour pouvoir rentrer dans les délais, quoi.
Toute la dématérialisation et Chorus Pro contribue à clarifier la chaîne de paiement. Ça permet aussi une chose importante dans les collectivités, c'est que on ait la trace de la date d'arrivée de la facture, parce que le risque dans les délais de paiement, c'est d'afficher des durées, mais si on n'est pas certain de la date d'enregistrement. Eh bien, il y a des services ou des directions qui peuvent le mettre sous le coude en attendant que. Donc là, on aura vraiment, avec le développement de Chorus Pro, une traçabilité parfaite. Et donc, on en parlait tout à l'heure à propos des ministères, la volonté pour chacun de ne pas se situer dans le peloton de queue, et de faire les efforts, et donc dans une très grosse structure comme la nôtre, d'avoir la certitude que tout le monde joue le jeu et s'implique dans les objectifs que la collectivité s'est fixés.
Ouais. Pierre, un commentaire, parce que
il y a beaucoup de choses et c'est formidable. Alors d'abord sur les avances, monsieur a dit quelque chose, ça a l'air un petit peu technique, mais sans garantie financière. Effectivement, proposer des avances à des PME-TPE en leur demandant une garantie financière, c'est de fait les éliminer parce qu'elles ne peuvent pas obtenir cette garantie ou alors à un coût prohibitif. Donc le fait de ne pas leur demander de garantie, c'est une bonne pratique qu'il faut mettre en avant. Sur le partenariat interne aussi entre l'ordonnateur et le payeur, là aussi je suis un tout petit peu technique, mais vous savez que les marchés publics, il y a l'ordonnateur, la collectivité Toulouse Métropole et il y a un payeur qui dépend de la Direction Générale des Finances Publiques. Le fait d'avoir la confiance entre ces deux acteurs, de créer un partenariat qui fait que, au lieu de contrôler facture par facture, on se dit Toulouse Métropole fonctionne bien, donc je vais faire des échantillons et comme ça, ça nous permettra de redresser s'il y a un problème. Mais a priori, j'ai confiance dans le fait que le contrôle est très fait. Tout ça fluidifie les paiements, tout ça améliore les choses et voilà. Encore une belle pratique qu'on veut mettre en avant. Ces partenariats, il faut les développer le plus largement possible. Je sais que la Direction Générale des Finances Publiques est extrêmement favorable et bravo pour ça. Il faut généraliser cette bonne pratique.
Vous voulez réagir?
Et je veux dire une chose pour les collectivités publiques qui s'interrogeraient sur la mise en place de ces avances sans garantie financière. Depuis 2 ans, 30 millions d'avances consenties, on a eu un sinistre à hauteur de 30 000 euros, c'est-à-dire 1 pour 1 000. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu et qu'on peut aussi avoir confiance avec nos fournisseurs, avec les entreprises.
Ouais, c'est un peu le phénomène aussi microcrédit qu'on peut trouver, ils sont tous remboursés généralement et c'est une vraie bouffée d'oxygène pour ces petites entreprises parce qu'elles accèdent à des marchés, donc elles ont une visibilité et en plus vont leur donner les moyens de pouvoir démarrer. C'est ça.
Il faut pas avoir peur.
Ouais, mais il faut pas avoir peur. Mais en même temps, mais Pierre va me le confirmer ou pas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives très originales de la part des collectivités locales. On commence à les voir dans cette émission. Là, vous en êtes une, le département des Hauts-de-Seine a beaucoup travaillé et je crois qu'il y a de plus en plus de communes ou de communautés de communes qui signent la charte.
Alors,
d'ailleurs, Pierre.
De plus en plus de communes et de collectivités de communes signent la charte, relations fournisseurs responsables, vont même jusqu'à être labellisées. Vous citiez les Hauts-de-Seine qui ont obtenu le label relations fournisseurs responsables. Et évidemment, le premier enjeu de cette charte et de ce label, c'est les paiements. Et c'est tout ce qu'on met en œuvre comme Toulouse Métropole pour payer le mieux possible. Et bien, autre sujet, vous le savez, on est en train de collecter toutes ces bonnes pratiques et on espère les diffuser largement à partir de la rentrée, dont celle-ci, hein, dont les avances et dont les partenariats DGFIP, contrôleurs-payeurs. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on doit diffuser largement, qu'on doit faire connaître parce que c'est vrai, les collectivités, les ministères avancent, ont envie de payer le mieux possible. Autant leur donner tous les outils pour le faire et les partager le plus largement possible.
On va voir le cas de la banque et du ministère de la Culture. On va voir qu'on marque une pause, mais quand même, Pierre, moi j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience qui est en train de se mettre en place.
Oui, je pense qu'on a...
J'y vais doucement, mais bon,
non, mais
par rapport à ce qu'on voit.
Ça fait un certain nombre d'années quand même qu'on se...
Vous y allez depuis
longtemps. Voilà, qu'on se bat sur le sujet. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que, oui, la prise de conscience est là. On voit même que les résultats s'améliorent. Le délai de retard moyen diminue année après année, même si on est encore en retard de 10 jours en moyenne, voire 11. Mais il faut continuer, il faut pas se relâcher. C'est pas parce qu'on s'améliore, c'est pas parce qu'il y a une prise de conscience que tout est là. Il reste beaucoup, beaucoup à faire. Et encore une fois, bravo à tous ceux qui s'engagent et qui montrent de belles choses.
Sacha Briand, juste avant la pause, après je donnerai la parole au ministère de la Culture et au Crédit Agricole Centre-Est. Mais vous, c'était quoi? C'était une discussion en tribu où vous vous dites, on peut pas continuer comme ça. Il y a un moment, il faut qu'on se modernise nous aussi pour cette relation avec nos fournisseurs.
Ben, quand on était élu en 2014, on a vu aider le paiement à 48 jours.
Ouais.
Outre le fait que ça respecte pas les textes, c'est pas responsable. C'est pas responsable vis-à-vis de notre territoire. Nous, on a été élus sur la base d'une volonté de développement, d'accompagner le développement d'une métropole qui est déjà très fort, mais de le renforcer et de faire en sorte que les petites entreprises, parce que on a chez nous, on le sait, des géants mondiaux, on a des petites entreprises, on n'a pas beaucoup de moyennes entreprises. Donc ce tissu-là est essentiel pour l'emploi et pour notre développement économique. Et d'ailleurs, on a été rejoint dans notre démarche par le CHU de Toulouse, par d'autres collectivités. Et donc, on crée un exemple. Et puis, on a été suivi aussi par la région Occitanie ou le département de la Haute-Garonne qui ont adopté leur propre Small Business Act, mais qui s'inspire largement du nôtre.
D'autres bonnes pratiques, c'est à suivre dans cette émission spéciale du Business Club de France. On marque une pause, on revient dans un instant. À tout de suite.
Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
De retour dans le Business Club de France, c'est dans cette émission spéciale consacrée au prix des délais de paiement, un prix pour récompenser non pas les entreprises qui respectent la loi, mais celles qui ont fait beaucoup dans leur process et leur engagement pour réduire au maximum les délais de paiement. Quand je parle d'entreprise, je parle aussi de collectivités locales, je parle aussi de ministères, puisqu'on va l'évoquer dans un instant. Nous sommes en compagnie de Nelly Plu, qui est la présidente et la fondatrice du groupe Equity, de Sacha Briand, qui est vice-président délégué aux finances de Toulouse Métropole, de François-Xavier Tesson, responsable comptabilité et fiscalité au Crédit Agricole Centre-Est, et Christophe Chefour, sous-directeur des affaires financières au ministère de la Culture, et Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. Pierre, avant de regarder en détail ce qu'a mis en place le Crédit Agricole Centre-Est et le ministère de la Culture, un mot sur l'impact du non-respect des délais de paiement dans ce pays. Ces retards, pas toujours volontaires, on l'a vu, mais malheureusement ils existent, mais ils font beaucoup de dégâts. On va le rappeler, le rappelle souvent, mais il faut le dire.
On le rappelle souvent et malheureusement c'est une réalité, donc il faut la rappeler et je pense que cette réalité permet un engagement, c'est-à-dire que ceux qui entendent cette réalité normalement réagissent. On le sait, ça a été mesuré, près de 25% des faillites d'entreprises sont liées à des retards de paiement. 25% des faillites d'entreprises, ça veut dire tout simplement que tous les jours, 30 à 40 entreprises disparaissent parce que leurs clients, publics, privés, collectivités, grandes entreprises, ont oublié de les payer en temps et en heure. On le sait effectivement dans beaucoup de cas, comme vous le disiez, ça n'est pas exprès. Mais pour l'entreprise, ça ne change rien, exprès ou pas exprès.
Il n'y a pas les sous.
L'argent n'est pas là, la trésorerie est en défaillance et on est en faillite. Donc c'est un enjeu national. Alors non seulement pour ces entreprises qui sont faillites, mais aussi pour celles qui vont bien. Parce que celles qui vont bien, elles ont envie de se développer. Et là aussi, on a besoin de trésorerie pour se développer. Donc, on est en reprise économique. Et j'allais dire, c'est d'autant plus important parce que pour financer la reprise, on a besoin de cet argent. Quand on se développe, j'allais presque dire, d'autant plus que quand on ne se développe pas. Donc, pour toutes ces raisons, il faut accélérer, il faut payer en temps et en heure toutes ces petites, moyennes entreprises et les grosses aussi d'ailleurs.
Voilà, alors au-delà des respects de délais de paiement, il y a aussi une volonté d'être un acteur économique. C'est le cas du Crédit Agricole Centre-Est. François-Xavier Tesson, je le disais tout à l'heure, délai moyen de paiement chez vous, auprès de vos fournisseurs, c'est de 26,9 jours, 93% des factures payées. Quelles actions avez-vous menées pour justement vous engager auprès de vos fournisseurs? C'est un peu plus de 1800 fournisseurs, je crois, en ce qui vous concerne.
C'est ça, oui.
20 000 factures traitées chaque année. Qu'est-ce que vous avez mis en place?
Alors, ce qu'on a mis en place, on a mis en place la dématérialisation des circuits de validation de nos factures. Ce qu'il fallait voir, c'est qu'avant, on avait un processus où les factures étaient reçues à la comptabilité, étaient ensuite intégrées dans l'outil, puis étaient par des courriers internes redispatchées sur les différents sites administratifs du Crédit Agricole Centre-Est pour recueillir des signatures d'un, deux, trois valideurs. Elles étaient de temps en temps égarées.
Et encore, il faut que vos valideurs soient là à peu près au même moment. Je fais une parenthèse, le mois de mai a été très bien pour trouver les trois valideurs au même moment. Ça a dû être croquignol, et moi, je vous le dis.
Exactement. Donc, depuis 2015, on a mis en place la dématérialisation des circuits de validation. Ouais. Et donc, c'est naturellement beaucoup plus simple puisque les factures arrivent à la comptabilité. Elles sont immédiatement scannées. L'outil arrive à lire une partie de la facture. On enrichit en plus les éléments manquants de la facture. Puis, c'est mis à disposition directement du valideur sur une plateforme en ligne. Et donc, le paiement peut être déclenché quasiment immédiatement.
Ah oui, effectivement, comme quoi la technologie elle joue pleinement son rôle. Quand vous disiez que l'outil arrive à lire partiellement la facture, il n'arrive pas à la lire complètement?
Non, il y a un certain nombre de champs qui sont faciles à lire, le CRN, le nom du fournisseur, etc. Après, en fonction du format de la facture, l'outil est pas forcément capable de lire tous les champs, donc on a besoin encore d'une intervention humaine.
On l'a évoqué avec Pierre, cette question sur l'uniformisation de la facture.
Hein? On sait que c'est des difficultés, bien sûr, on travaille dessus, on espère proposer un modèle de facture homogène d'ici quelques mois, mais on sait que comme chaque grand client a son modèle de facture et demande à ses fournisseurs de respecter le modèle de facture, de mettre ses informations-ci et pas celles-là, etc., c'est un casse-tête, c'est un cauchemar pour les entreprises, et c'est une des raisons des retards de paiement, parce que soit l'entreprise envoie une facture standard et elle sort du processus, sauf s'il y a des lecteurs optiques effectivement pour retrouver les informations, soit le fournisseur essaye de suivre les demandes de tous ses clients, et là il s'enferme un dimanche par mois, et donc ça retarde d'un mois la facturation. Donc dans tous les cas, arriver à homogénéiser et à simplifier les demandes sur les factures fera aussi avancer les choses.
Est-ce qu'on pourrait pas imaginer de manière basique, je sais pas, que les mentions légales c'est en bas à droite, la somme TTC c'est en bas à gauche, j'en sais rien, ou le contraire, plutôt, ça serait plus logique.
Le positionnement
en haut à droite, je sais pas, j'ai une bêtise.
Le positionnement devient de moins en moins sujet parce qu'on rentre de plus en plus dans la facture numérique, mais au-delà du positionnement sur la facture, il y a les informations qu'on demande. Quand on demande trois adresses différentes sur une facture, l'adresse du siège, l'adresse de livraison et l'adresse du lieu de facturation, je peux vous garantir que dans un cas sur deux, la dame ou le monsieur qui fait la facture se trompe d'adresse, met la mauvaise au mauvais endroit et la facture part à la mauvaise adresse. Donc vous voyez, sur des choses aussi bêtes, aussi simples, demander des choses qui finalement ne servent pas à grand chose amène à des problèmes de processus, de traitement. Les factures sont égarées et donc elles ne sont pas payées.
Et quand elles bloquent, elles restent longtemps, on va en parler tout à l'heure, mais vous venez intervenir pour ce
Je voulais rebondir sur ce point-là, puisque c'est aussi un des points dans notre plan d'action global qu'on développe depuis 2015. Nous menons actuellement un grand programme de transformation de nos agences bancaires, et ça passe notamment par des rénovations immobilières de toutes nos agences. Et donc on travaille beaucoup en ce moment, depuis 2 ans, avec les entreprises du BTP. On a une enveloppe de plus de 100 millions qui a été débloquée sur 4 ans. Et on a travaillé avec eux afin de déterminer justement un format de facture type, pour rebondir sur ce qu'on disait. Et on voit que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. C'est un système, je peux aller que dans ce sens-là, qui est gagnant-gagnant, et pour le fournisseur et pour nous. C'est-à-dire que le fournisseur n'a pas besoin de réémettre 2 fois sa facture. Et de notre côté, en termes d'intervention humaine, c'est beaucoup plus limité aussi. Et on peut être plus performant sur notre
délai. J'imagine, oui. Mais bon, vous allez demander peut-être une facture type, mais peut-être que le ministère de la Culture en voudra une autre, parce qu'il a un autre système pour les analyser. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué.
Et c'est là où on va essayer d'homogénéiser tout ça. Mais je suis preneur de la facture type du Crédit Agricole de toute façon.
Voilà.
Avec plaisir.
Voilà une première démarche. Christophe Chefour au ministère de la Culture. On le disait tout à l'heure, un petit rappel, les réductions des délais de paiement est devenu un objectif prioritaire du plan de modernisation adopté fin 2014. En 2 ans, vous avez réduit vos délais de paiement de 60%. Et c'est-à-dire que vous payez à 20 jours aujourd'hui contre 52 en 2014. La même question j'ai posé à nos autres invités, qu'est-ce que vous avez mis en place ?
Après la prise de conscience, on a mis en place deux réformes, l'une en interne, l'une en externe vis-à-vis de nos fournisseurs. En interne, on a fait d'abord une analyse des dysfonctionnements, chacun évidemment se renvoyant la faute, puisqu'il y a différents services qui interviennent pour le ministère de la Culture. Et donc, on a essayé d'analyser de façon objective pour mettre en place des règles, notamment la règle des 5 jours. 5 jours pour le bon de commande, 5 jours pour le service fait, 5 jours pour la facture, et ensuite 5 jours pour le paiement. D'où les 20 jours, en fait, qui était notre objectif initial. Maintenant, on est évidemment plus ambitieux une fois qu'on l'a atteint. On a analysé donc chacun de ces champs-là avec le service fait, la facture, pour réduire et notamment limiter les bons de commande à 2 euros. Lorsqu'on commandait un tampon à 2 euros et qu'on le commandait tous les jours, ça servait strictement à rien d'émettre un bon de commande. Donc effectivement, on a eu cette analyse critique vis-à-vis de nos pratiques. Vis-à-vis de nos fournisseurs, ce que disait madame, effectivement, on a essayé d'avoir un guichet unique pour nos fournisseurs. Il y avait différentes adresses, le ministère de la Culture à Paris est sur 7 sites, donc 7 adresses possibles. On a dit non, il y en a une seule, c'est ce bureau-là. Pareil, on a créé une adresse mail générique, il y a une seule adresse mail. Les fournisseurs, dès qu'ils ont une question, envoient un mail avec une garantie de réponse dans un délai en fonction des contraintes de la période de l'année, effectivement. Donc il y a eu cette révolution vis-à-vis des fournisseurs qu'on a essayé de mettre en place, et on va même jusqu'à, lorsque le fournisseur oublie de nous envoyer la facture, ça peut arriver, on est proactif, c'est-à-dire on va l'appeler pour lui dire mais maintenant que le service a été fait, il nous faut la facture pour pouvoir mettre en paiement. Et donc effectivement, alors nous évidemment ça nous arrange en termes de délai de paiement, mais aussi on pense à lui parce qu'il a pas forcément, notamment lorsque c'est des PME ou des TPE, tous les processus de leur côté sont pas forcément en place, d'où notre intérêt d'être proactif.
C'est une très belle initiative parce que là vous dites quand le fournisseur oublie, peut-être il a pas oublié, mais il a envoyé à la mauvaise adresse.
Oui, après il y a différentes raisons.
Non, mais c'est bien que vous soyez capable de dire, eh oh, il y a un truc qui va pas.
Tout à fait.
Ah ouais, mais ils sont peu nombreux.
D'où l'intérêt aussi de la dématérialisation. Enfin, je vois ce qui a été dit, notamment pour nous, Chorus Pro, qui pour l'État et notamment enfin aussi les collectivités, permet de vraiment simplifier la chaîne et de gagner. En termes de délai de paiement, effectivement, on est à 20 jours. Pour les factures dématérialisées, on est à 18 jours. Donc ça permet vraiment de réduire encore plus. Donc avec un taux, maintenant, on est à 50% de factures. On espère être à 60% de factures dématérialisées d'ici la fin de l'année. On veut aller encore plus loin dans cette réduction des délais de paiement.
Pierre, un commentaire ?
Oui, on voit l'impact positif déjà du numérique et de Chorus Pro. Alors, je rappelle, parce que c'est important pour tous ceux qui nous écoutent, la facture numérique devient progressivement obligatoire vis-à-vis du monde public. C'est aujourd'hui le cas pour les grands groupes depuis un an et pour les ETI depuis cette année. Ce sera obligatoire pour les TPE, pour les PME à partir du 1er janvier prochain et pour les TPE dans 2 ans. Donc d'ici 2 ans, toutes les entreprises travaillant avec le monde public devront utiliser la facture numérique, ce qui est très positif. On voit les bénéfices, ces messieurs l'ont dit, traçabilité, suivi, indication, on ne perd plus les factures, etc. On voit aussi, attention, il faut que les PME-TPE se saisissent du sujet, commencent à s'informer. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts faits pour les former, les renseigner. Ce serait dommage qu'elles se retrouvent dans un an en se disant « bah tiens, je peux plus travailler avec le monde public parce que je me suis pas intéressé au numérique. » Donc allez-y, regardez, renseignez-vous. Ce sera utile pour vous aujourd'hui, parce que vous pouvez commencer aujourd'hui, et demain, parce que ce sera obligatoire.
Ouais. En tout cas, il y a de très très belles initiatives cette année de la part des ministères, notamment le coup de cœur du jury. Il a été attribué à la plateforme HR Finance Santé du ministère des Armées, c'est ce que j'ai vu. Voilà, non mais c'est remarquable, ça veut dire qu'il y a, voilà, on a pris l'outil en main. Oui. J'ai presque envie de dire, il marche. Je ne vais pas dire ça, mais bon, il marche. Et puis les entreprises commencent à se l'approprier. Et puis il y a un vrai résultat en face qui a été mis en place. Je voudrais poser une question un petit peu globale. Lorsque vous avez mis en place ces actions, vous avez rencontré des difficultés particulières, qu'elles soient en interne, dans le cadre de vos organisations, ou peut-être même des blocages, parce que on faisait toujours comme ça avant, pourquoi voulez-vous qu'on change les choses? Vous avez rencontré ce genre de choses, Nelly Plus, vous, ça va? Vous êtes une petite structure, mais quelque part, vous prenez une telle audace.
On est une petite structure, mais on gère des volumes, des montants exponentiels.
Oui,
et nous avons effectivement alors rencontré des problématiques au démarrage de notre réflexion, notamment dans le choix de la dématérialisation, puisque Group Equity a amorcé les investissements de sa transformation numérique, notamment dans la DMAT, avec de choix de plateforme sur la conformité avec e-attestation, pour écourter tous les délais de signature avec e-sign, mais surtout, et là on est sur le sujet des délais de paiement, nous avons choisi un ERP qui s'appelle Exact, que nous avons implémenté depuis janvier 2018, donc pour la gestion comptable des projets, le suivi de nos factures, la gestion commerciale de nos activités, ainsi que toute la brique de comptabilité pour la société Group Equity. Et cette solution a été choisie car elle nous permet de nous adapter à tous les processus de nos clients. Il faut bien comprendre, et là on vient d'en avoir le témoignage, chaque client a ses propres processus. Il faut qu'on soit agile. Donc il était pour nous la problématique importante a été d'ouvrir et de trouver un partenaire éditeur de logiciels qui va nous accompagner dans notre modèle complètement inédit de mandat de facturation au nom et pour le compte de chacun de nos partenaires.
Donc là, on a bien compris que le travail continue, si j'ose dire.
Voilà.
C'est votre objectif.
C'est ça.
Vous dites 2018, objectif 2018, traitement, délai de traitement 2 jours.
Absolument. Et en conformité avec les obligations, je reviens sur nos choix ERP, c'est en conformité avec toutes les obligations GDPR.
Ouais, ouais.
Mais oui, 2 jours.
Ouais, voilà. La preuve, hein, avec alors, les technologies.
Je peux vous dire qu'on y est déjà, en fait, sur la fin du... Bon, on l'avait, j'ai Pierre en face de moi, mais on l'avait mis comme ça, à titre... on a partagé également dans notre dossier de candidature au délai de paiement, nos chiffres du premier trimestre 2018, on y est déjà. Donc j'ai envie de vous dire que ça sera moindre finalement.
Attends, on va parler de vos engagements et de vos projets et de vos objectifs. Je vais commencer avec vous, Sacha Briand. C'était difficile au sein de votre collectivité, au sein de Toulouse Métropole, de mettre en place cette nouvelle organisation finalement.
Nous, toute la fonction finance est déconcentrée dans les directions.
Ouais.
Avec 4800 agents au niveau de Toulouse Métropole, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui contribuent à la chaîne comptable. Donc forcément, c'est la remise en cause des pratiques individuelles par la mise en place d'une procédure d'harmonisation. Mais bon, je pense qu'il y a quand même derrière un discours positif et que les moyens mis, notamment sur la dématérialisation, ont permis d'accompagner l'amélioration des conditions de travail des agents. Et puis à l'extérieur, c'est aussi ouvrir la porte des marchés publics à des entreprises qui n'avaient pas l'habitude, qui ne comprennent pas bien. Donc il a fallu, et c'est ce qu'on a fait, simplifier les formulaires ou les propositions des candidatures qui sont faites pour les marchés publics. On a mis en place aussi des ateliers de formation à la dématérialisation auxquels les entreprises participent. Et on va même jusqu'à mettre en place une hotline Ville de Toulouse, Toulouse Métropole, puisque la Ville de Toulouse aussi s'inscrit dans cette démarche, pour accompagner les entreprises dans les démarches de dépôt des offres et des candidatures. Faut pas oublier, je le dis là aussi aux collectivités qui nous écoutent, plus de candidatures, c'est plus de concurrence, c'est des offres de meilleure qualité pour pour les marchés publics.
Exact, exact. Oui. C'est plein de bon sens finalement, et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Mais bon, après, en tout cas, vous, votre objectif à Toulouse, c'est entre 15 et 20 jours les délais de paiement. Hein, c'est ce que vous voulez atteindre. Vous êtes à un peu plus de 18 aujourd'hui, ce qui est déjà assez remarquable. 90% des factures payées en 30 jours maximum. C'est l'objectif que vous êtes fixé. Vous y êtes déjà pour 2018.
On est autour de 17 jours aujourd'hui.
17 jours. Ah bah oui.
On va progresser, on va continuer à progresser. On a dans la répartition avec l'ordonnateur. L'ordonnateur tient ses objectifs. Et ça, c'était très important. Nous, on poursuit l'intégration de la dématérialisation. Et je pense qu'avec l'élargissement de Chorus Pro, là, on va effectivement réduire encore sensiblement les délais de paiement.
Mais c'est important ce que vous dites là, c'est parce que c'est pas des coûts que vous avez voulu faire, c'est vous vous êtes installé dans la durée avec de vrais process qui fonctionnent et qui s'inscrivent dans la durée, Pierre. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Hein.
Et c'est important parce que effectivement, on n'est pas sur, on a un problème, on met en place une solution et tout va bien. On est sur un changement de culture. On part d'une culture où le paiement, franchement, c'était bon. Bah voilà, on paiera quand on aura le temps. On entendait régulièrement des réponses faites aux PME-TPE du style, mais vous savez bien qu'on va vous payer, ce qui n'était pas du tout rassurant pour la PME-TPE parce que ce qu'elle voulait savoir, c'est quand elle allait être payée. Et non pas si elle allait être payée un jour. Et on est en train de changer de culture. Moi, j'entends des mots encore ce matin, formidable. J'entends paiement en deux jours. Qui aurait parlé de paiement en deux jours il y a quelques années? J'entends hotline dans un service public. Qui aurait parlé de hotline il y a quelques années? J'entends rappeler les fournisseurs qui n'ont pas envoyé la facture. Pareil, ça, c'est un changement de culture. C'est-à-dire, on ne se met plus dans une culture où on se dit on paiera quand le processus nous permettra de payer. On se met dans une culture où on doit payer le plus tôt possible parce que c'est important et on se donne tous les moyens, y compris des choses un peu originales comme une hotline ou rappeler les fournisseurs, pour le faire en temps et en heure, voire même avant le temps et l'heure, parce que finalement, au coût de l'argent, c'est pas si mal de pouvoir payer un petit peu plus tôt une entreprise. Ça va beaucoup l'aider et finalement pas beaucoup gréver les budgets d'un grand groupe ou d'une grande collectivité.
C'est clair. François-Xavier Tesson pour le Crédit Agricole Centre-Est. Là aussi, par définition, vous avez une zone, vous avez une région, vous avez différents bureaux, différentes agences. Mettre tout cela en marche, ça rejoint un peu ce que disait Sacha Briand à l'instant. Il faut que tout le monde rame dans le même sens, ouais, mais ramer dans le bon sens du terme, hein, ramer dans le sens pour avancer. Ça a été difficile de mettre en place ces engagements, ou ça a été peut-être plus facile du fait que vous êtes un acteur économique?
Oui, je rejoins complètement ce qui a été dit par Sacha Briand sur l'aspect. C'est un processus qui est éminemment transverse dans l'entreprise. Nos achats sont décentralisés dans les différentes directions, et donc on a un nombre d'intervenants sur ce processus qui est vraiment important. D'où des logiques après d'efficacité en interne. Et donc il a été important au début de prendre le temps de rencontrer chacun des intervenants dans ce processus, rappeler comment fonctionne ce processus, et puis factualiser un peu le fonctionnement pour sa direction. Donc avec une collaboratrice, je suis allé rencontrer chacun des directeurs pour lui expliquer en combien de temps il payait dans sa direction, et puis revoir avec lui son circuit de validation. Est-ce que ça vaut toujours le coup d'avoir 2-3 valideurs ou pas? Et rien que cet exercice de prise de conscience finalement de chacun des directeurs et puis de chacun des responsables qui interviennent dans ce processus, je pense que c'est pour beaucoup dans la réduction du délai de paiement qui a été mise en place.
Ouais. Vous vous êtes fixé comme objectif en 2018 25 jours en délai moyen, hein. Vous êtes un tout petit peu plus au-dessus aujourd'hui et 97% des factures payées avant les 60 jours.
C'est ça, donc on a depuis 2 ans diminué notre délai de paiement de 6 jours et puis on souhaite poursuivre dans cette dynamique. On a plein de beaux challenges qui nous attendent, mais je pense que le suivi est aussi important pour pouvoir, d'un point de vue culturel, continuer à évangéliser sur le sujet. Et on a approfondi nos suivis, puisqu'avant, on avait juste un suivi d'activité entre la date de réception de la facture et la date de paiement par direction. Et c'est quelque chose qu'on a élargi en regardant maintenant la date d'émission de la facture, qui est le délai réglementaire qu'on est censé suivre.
Ouais, c'est cette question de date. C'est incroyable. Mais après il y a eu les faux délais cachés, c'est-à-dire ah oui, mais le devis a pas été signé, donc on pouvait pas faire la facture. Et le devis arrivait beaucoup plus tard.
Voilà, et la bonne commande n'a pas été reçue, et il faut le numéro de bonne commande sur la facture.
Sinon, on peut pas faire. Christophe Chefoury, après on fera une conclusion un peu plus globale. Moi, j'aimerais bien vous poser la même question. L'engagement, comment ça s'est passé au sein même du ministère de la Culture, et ensuite quels sont les projets?
Alors après la prise de conscience, effectivement, il y a une volonté très très forte de s'engager pour réduire les délais de paiement et toutes les équipes ont été impliquées. Donc il n'y a pas eu de difficulté de ce point de vue-là. Nous, notre difficulté, c'est de maintenir dans la durée justement cette forte réduction et le fait d'être à 20 jours. L'année dernière, par exemple, le principal site du ministère de la Culture à Paris a été inondé, donc fermé pendant une semaine. Donc aucune facture payée pendant une semaine. Et malgré ça, on a réussi à réduire à nouveau le délai de paiement en 2017 par rapport à 2016. Donc il y a une mise sous tension de fait des équipes. En fonction des événements et de rappeler à tout le monde, notamment avec le name and shame, hein, ce qui a marché de fait pour nous quand Bercy nous a dénoncé. De fait, on le fait aussi en interne pour la concurrence de fait que chacun va améliorer lui-même ses délais qui lui sont impartis. Donc on a une vraie volonté de s'inscrire dans la durée et puis une volonté de dématérialiser aussi nos procédures puisque c'est comme ça. On sait très bien qu'on arrivera cette année sans doute, sans aucun doute, à respecter nos objectifs. On se fixe 19 jours comme objectif. Voilà, avec les factures dématérialisées, on est à moins de 18 jours, donc on y arrivera.
Vous échangez de bonnes pratiques entre ministères? Vous vous appelez de temps en temps en disant comment tu fais?
Alors déjà on essaye de se parler entre nous, ministère de la Culture, on est différentes directions générales, donc faut que tout le monde se mette autour de la table. Ensuite on a nos établissements publics, les musées nationaux, les théâtres nationaux notamment. Donc c'est plutôt notre, on discute plutôt avec eux pour voir comment, via notamment le contrôle interne, ils peuvent aussi s'améliorer, réduire leurs délais de paiement, eux-mêmes payer directement leurs factures. Hein. C'est logique, c'est pas nous qui les payons à leur place. Et on sait qu'on a des marges de progrès dans ce sens-là. Donc on essaye d'évangéliser dans la sphère culture qui nous est impartie. Après, effectivement, il n'y a pas d'échange entre ministères, ce qui est dommage. Je pense que ça a Bercy plutôt de l'organiser. Mais effectivement, on pourrait le faire. On a postulé aussi parce qu'on avait connaissance du prix et que on a vu que le ministère des Armées l'avait obtenu l'année dernière. On s'est dit pourquoi pas nous. Donc effectivement, il y a une certaine émulation entre ministères malgré tout.
Ouais. Pierre, on le disait, les choses sont en train de changer.
Oui.
Mais moi, je trouve ça assez remarquable parce que on est quand même si culturellement vous dites on est en train de changer le logiciel. Moi, je me mets à la place d'une PME qui pourrait très bien dire, peut-être Nelly Plou ne le fait pas, mais elle pourrait très bien dire, je suis payé en retard, je paye en retard.
Oui.
Ah bah, vous savez très bien. Après, vous allez me dire, il y a les pénalités qui sont pratiquement jamais appliquées. Mais moi, je vais vous dire, le nombre de TPE qui passent ici, qui disent, j'ose pas.
Voilà.
Alors, j'ose pas appliquer les pénalités à mon client. Et même, on a eu un client qui lui a envoyé un avoir sur la facture avec pénalité pour annuler la facture. On a eu ce cas ici. Souvent, le tout petit, il ose pas trop la ramener.
Mais, précisons qu'effectivement, un certain nombre de ministères ont pris le parti de mettre en automatique le paiement des intérêts de retard quand ils payent en tarif.
Exactement, je confirme.
C'est automatique, c'est clair, c'est voilà. Très bien.
En revanche, c'est vrai que beaucoup, non seulement ne le font pas, en plus, nous disent, j'attends de recevoir la facture d'intérêt de retard pour pouvoir la payer. Évidemment, les petites structures ne facturent jamais ou quasiment jamais les grandes. Et quand par hasard ils en reçoivent une, certains se permettent même de la refuser, comme vous l'avez dit. On a eu ce cas ici il y a quelques semaines. Donc tout ça pour dire, utilisez les intérêts de retard. D'abord, n'hésitez pas à les mettre en automatique. C'est une bonne pratique qu'il faut diffuser. Vous n'avez pas besoin de recevoir une facture complémentaire, d'ailleurs, pour payer des intérêts de retard. La facture d'origine précise déjà le montant des intérêts de retard. Donc, ça vous suffit à justifier le paiement des intérêts de retard. Et pour les TPE-PME, n'hésitez pas à le réclamer. C'est la loi. Non seulement vous pouvez, mais vous devez les réclamer. Et pour les grands clients publics comme privés, payer ces intérêts de retard, ça fait partie du cycle, ça fait partie de la loi, ça fait partie aussi de la confiance que vous recréez avec vos fournisseurs. D'accord, pour une raison ou pour une autre, j'étais payé un peu en retard, mais je m'en rends compte et je le compense par les intérêts de retard. Et ça aide aussi ces PME, TPE qui, eux, doivent financer ce retard. Et donc, si on leur donne des pénalités de retard, ça leur permet de rembourser ce financement.
En tout cas, voilà ce qu'on voulait vous faire partager. Ces bonnes pratiques, elles existent. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi beaucoup de bon sens. Il y a aussi un engagement, je dirais, humain. Et c'est ce que vous nous avez fait découvrir. Merci beaucoup. Nelly Plou, présidente et fondatrice du groupe Equity. Sacha Briand, vice-président délégué aux finances de Toulouse Métropole. François-Xavier Tesson, responsable comptabilité et fiscalité au Crédit Agricole Centre-Est, Christophe Chefour, sous-directeur des affaires financières du ministère de la Culture, et Pierre Pelouzet, médiateur national des entreprises. Merci Pierre.
Merci Michel Picot.
Merci à vous tous. Merci. Plus d'infos, c'est sur le blog de l'émission businessclubdefrance.com. Merci de votre fidélité.